Vous écoutez France Culture, il est 6h. Un autre jour est possible avec Toufik Hakem jusqu'à 6h30.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bon réveil avec France Culture. Dans un instant, Olivier Duhamel pour sa série Une histoire des présidentielles en France de 1965 à 1995. Six élections, six moments décisifs de la vie politique française, six tournois où tourbillonnent les doctrines, les passions et les intérêts qui ont marqué les grandes étapes de la Ve République. Aujourd'hui, 12e épisode de la série. À 6h20, je serai avec l'écrivain Leïla Sebar pour un livre qu'elle a coordonné, un recueil de 34 textes, une enfance juive en Méditerranée musulmane, édité par Bleu Autour. Et enfin, à 6h30, les premières informations du jour sur France Culture. Nous sommes le mardi 17 avril, un autre jour est possible, et tout de suite, Olivier Duhamel.
La droite se divise pour la présidentielle, la gauche ne reste pas en reste. L'euphorie de la campagne de 1974 ne tiendra pas le temps d'un septennat. Les trois premières années, l'union de la gauche engrange les succès. Les quatre dernières, elle creuse sa rupture, jusqu'à l'élection présidentielle de 1981. Le soir de sa défaite face à Giscard, le 19 mai 1974, François Mitterrand n'enterre pas l'espoir, tout au contraire. Il admet la décision du suffrage universel, évidemment, c'est notre loi, rappelle-t-il. Mais aussitôt après, il évoque l'inéluctable victoire à venir pour le monde de la jeunesse et du travail, et il assure « quelque chose vient de commencer qui ne s'arrêtera pas de sitôt ». Dans la plupart des autres démocraties, Mitterrand disparaîtrait de la scène publique. Un candidat battu à l'élection présidentielle cède la place. On ne trouve guère qu'une exception dans l'histoire politique contemporaine des États-Unis, celle de Richard Nixon, battu en 1960 et revenu, élu, 8 ans plus tard, après un long purgatoire. On ne voit à peu près aucune exception non plus au Royaume-Uni, hors le grand Churchill, et Harold Wilson, qui demeura à la tête du Labour après sa défaite de 1970 face à Edward Heath, auquel il succéda d'ailleurs 4 ans plus tard. Aucune exception à ce jour en Espagne ou en Allemagne. Kohl s'est retiré après son ultime échec, Schröder aussi. Rien de tel en France. Comme si chez nous, l'on pouvait être candidat à vie ou presque. Comme si la présidentielle se gagnait à l'usure. Les esprits et les pratiques ont peut-être fini par changer au bout d'un demi-siècle de Ve République. Il en allait en tout cas ainsi naguère. D'ailleurs, personne ne songe à demander à François Mitterrand de renoncer, du moins personne en 1974, tout au contraire. Le chef du Parti Socialiste ne laisse guère passer de temps avant de montrer qu'il est vivant, bien vivant, battant, très battant. Dès le 25 mai 1974, il cherche à renforcer sa base, à élargir le Parti Socialiste. Il lance un appel en ce sens afin de repartir ensemble vers l'étape nouvelle. Mais quelle est l'étape nouvelle? Les législatives de 78 ou la présidentielle de 81? Prudemment, il ne précise pas. Élargir, une délégation du Parti Socialiste est aussitôt constituée pour tenter de convaincre organisations et personnalités qui ont soutenu Mitterrand lors de la campagne présidentielle de le rejoindre au Parti Socialiste. En premier lieu, le PSU, dirigé par Michel Rocard, petit mais prestigieux parti, puisqu'il avait compté Mendès France dans ses rangs, intellectuellement très actif, et en même temps devenu aussi hétérogène que divisé depuis le tourbillon de mai 68. Rocard ne parvient pas à convaincre une majorité de renoncer à désormais faire bande à part. Il quitte donc seul le PSU, enfin pas tout à fait seul, avec quelques amis. À côté des rocardiens, d'autres franchissent le pas. Des dirigeants et des militants du syndicat CFDT, qui viennent ainsi renforcer les chrétiens de gauche au sein d'un parti de tradition très laïque, pour ne pas dire laïcarde. S'y ajoute, dans la même veine, une personnalité de poids, Jacques Delors. Le 12 octobre 1974, tous se retrouvent aux assises du socialisme. Le Parti socialiste connaît un nouvel essor, les militants affluent jusqu'à 150 000 membres. Le PS prépare l'alternance. Côté communiste, ce renforcement de l'allié rival inquiète. Le Parti communiste connaît une phase de durcissement. Il commence à imaginer une solution alternative à l'union de la gauche, ou sinon, vraiment alternative, une sérieuse inflexion. Les communistes mettent en effet désormais en avant ce qu'ils appellent l'union du peuple de France. La formule ne vise pas vraiment une union nationale, mais au moins l'élargissement des alliances vers des couches sociales victimes des monopoles et des forces politiques en rupture possible avec le pouvoir giscardien qui, selon les communistes, se trouve à leur service. Le PC pense particulièrement aux gaullistes de gauche. En les associant à l'opposition, il échapperait ainsi au face-à-face avec les socialistes dont il sent jour après jour qu'il pourrait leur nuire. François Mitterrand n'a-t-il pas expliqué à ses amis de l'Internationale socialiste, inquiets de son alliance avec les communistes, qu'elle avait pour but de les affaiblir? Lors de son 21e congrès, à la fin octobre 1974, le PC réaffirme qu'il est un parti révolutionnaire. S'il veut un socialisme aux couleurs de la France, cela n'empêche qu'il se donne comme objectif la suppression du capitalisme. Rien de très gênant dans ces formules très à gauche pour les socialistes. Eux aussi parlent depuis 1971 de rupture avec le capitalisme. Ils tracent la perspective d'un front de classe. Bref, d'un côté comme de l'autre, la phrase et le halo marxiste restent très présents. Cela dit, la révolution portugaise suscite désaccords et polémiques entre socialistes et communistes. Au Portugal, ils s'affrontent durement. En France, Mitterrand soutient son ami Mario Soares et Marchais, le sien Cunhal, y compris lorsque le journal des socialistes portugais Republica est autoritairement fermé en mai 75. Un an après, le conflit s'apaise, le Parti communiste semble prendre un virage euro-communiste. Lors de son 22e congrès, début février 76, il s'engage sur la voie française vers le socialisme. Et peu avant, à la télévision, Georges Marchais a spectaculairement abandonné la dictature du prolétariat. Il confirme et justifie dans son discours de clôture du congrès. Pour nous, à notre époque, la démocratie économique et politique est la condition de la marche au socialisme. C'est pourquoi nous exprimons notre désaccord lorsqu'il se commet dans le pays qui a fait sa révolution socialiste voici 58 ans des manquements aux libertés de l'homme. Le philosophe marxiste Louis Althusser proteste. Un concept ne s'abandonne pas comme un chien. Les socialistes, eux, apprécient. L'embellie n'est cependant que de courte durée. À partir du printemps 1977, le Parti communiste reprend et accentue la pression. Il utilise à cette fin sa demande d'actualisation du programme commun, qui a maintenant 5 ans d'âge, peu pour un être humain, beaucoup pour un programme politique. Les socialistes en conviennent, mais c'est à peu près la seule chose dont ils conviennent. PC et PS s'opposent sur l'ampleur des changements à apporter, modestes pour les premiers, conséquents pour les seconds. Ils se confrontent sur les partis appelés à l'actualiser, les trois signataires pour les socialistes, d'autres aussi pour les communistes, qui aimeraient y associer des syndicats et les gaullistes de gauche qu'ils prisent. Ils se disputent à front renversé sur la force de dissuasion nucléaire. Les communistes s'y sont spectaculairement ralliés et approuvent la stratégie gaullienne dite de dissuasion tous azimuts. Nombre de socialistes restent opposés à la force de frappe. François Mitterrand suggère que la question soit tranchée par référendum. Référendum, loin d'apaiser les tensions, la suggestion les ravive. Les communistes réaffirmant leur réticence à l'encontre du référendum, arme entre les mains du président de la République. Enfin, surtout, les controverses se concentrent et s'étendent sur les nationalisations. Doivent-elles porter sur les seules entreprises mères ou également sur les filiales, toutes les filiales? Et comment calculer l'indemnisation des propriétaires nationalisés? Le PC ne fait plus de cadeaux à Mitterrand. La veille d'un débat télévisé important qu'il oppose au Premier ministre Raymond Barre, l'Humanité, le 10 mai 1977, publie le chiffrage communiste du programme commun. Sympathique. Les négociations achoppent. Georges Marchais dramatise en interrompant brutalement ses vacances en Corse. Le 14 septembre, les négociations sont suspendues à la suite du départ fracassant de Robert Fabre, le président du mouvement des radicaux de gauche. Elles reprennent et sont définitivement rompues le 22 septembre. 22 septembre 1977. Mort de l'Union de la gauche amorcée 12 ans plus tôt lors de la première présidentielle, relancée après la seconde, incarnée par la candidature unique de François Mitterrand à la troisième. Mort de l'Union de la gauche comme stratégie politique. Mort de l'Union de la gauche comme dynamique dépassant la simple alliance entre les partis. Ne subsistera qu'une alliance électorale pour le second tour des élections législatives. Cela ne suffira pas à les gagner, malgré d'ailleurs les prévisions contraires. En mars 1978, la gauche a beau recueillir 50,2% des voix au premier tour et la majorité 47,5% seulement, la droite se mobilise entre les deux tours et l'emporte à l'arrivée. Au tour décisif, elle a obtenu 900 000 voix de plus que la gauche. Cet échec présente une importance extrême pour la suite de l'histoire, pour la présidentielle de 1981. D'abord parce qu'il empêche l'alternance parlementaire que tout le monde attendait. Nul ne peut dire ce qui se serait passé si la gauche avait gagné en 1978, nul ne sait combien de temps elle aurait gouverné, à quel moment elle aurait éclaté, comment Valéry Giscard d'Estaing aurait géré une première cohabitation de ce type, et encore moins quand, ni comment, l'inévitable conflit se serait terminé. Il n'en demeure pas moins que le destin de la France, et en la matière, la quatrième présidentielle, aurait été très différente. Un deuxième changement intervient après l'échec de la gauche en 1978, qui va peser aussi, mais moins qu'il ne l'aurait pu sur la présidentielle attendue 3 ans après. Au soir de la défaite électorale, pour la première fois dans l'histoire de la gauche, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le dirigeant d'un grand parti politique qui vient de perdre les élections se trouve ouvertement contesté. Le 19 mars 1978, au soir, rompant avec la monotonie et la langue de bois des soirées électorales, durant lesquelles tout le monde affirme avoir gagné, quel que soit son résultat, Michel Rocard crée la surprise en proclamant « La gauche vient de manquer un nouveau rendez-vous avec l'histoire ». 6 mois après, il confirme et surenchérit pour qui n'aurait pas compris, en dénonçant un certain archaïsme. Et là, tout le monde comprend, il vise Mitterrand. Pour la première fois dans l'histoire des présidentielles, la désignation du candidat socialiste devient l'objet d'une vraie compétition. Elle se déroule devant l'opinion, sous l'arbitrage des sondages, et sur ce terrain, Michel Rocard l'emporte nettement. Elle se déroule aussi au sein du parti, sous l'arbitrage des militants. François Mitterrand y excelle. Rocard incarne la gauche social-démocrate, girondine, sociétale, moderniste, américaine, chrétienne. Mitterrand représente la gauche socialiste, jacobine, étatiste, traditionnelle, anti-impérialiste, laïque. La compétition se concentre sur le congrès de Metz, qui s'ouvre le 6 avril 1979. Mitterrand, avec le concours de Defferre, obtient 47%. Rocard, avec Mauroy et Pierret, 37%. 10 points d'écart, la messe est dite. Elle est d'autant plus que Jean-Pierre Chevènement et le CRS, avec leurs 15%, rejoignent la majorité. L'affaire semble réglée. Elle ne serait cependant pas si Rocard persistait dans sa candidature. Il le fait, le 19 octobre 1980, en déclarant sa candidature depuis sa mairie de Conflans-Sainte-Honorine. Enfin, il l'annonce sans l'annoncer, tout en l'annonçant. Il se dit qu'il faut occuper l'espace, parce que les médias et l'opinion continuent à le chérir, parce que François Mitterrand ne s'est pas déclaré, et qui sait, pourrait renoncer. Mais en même temps, il ne veut pas rester candidat si Mitterrand y va. Et il l'a dit, parce qu'il diviserait le parti, parce qu'il n'a aucune chance d'y être investi. Mais cela montré, il le sait. Donc il devient candidat, sauf si, candidat au cas où, le genre de subtilité qui ne convient pas à l'exercice. S'y ajoute un raté télévisuel, deux caméras sont en place pour filmer sa déclaration de candidature, l'une pour TF1 et Antenne 2, l'autre pour la 3, manque de chance, il fixe celle de la 3. Donc pour les autres, l'immense majorité des téléspectateurs qui sont sur la 1 ou la 2, il les regarde de biais, accentuant la fausseté d'une candidature conditionnelle. En vérité, Mitterrand n'hésite pas un instant. Il veut être candidat, il le saura. Mais en artiste de la politique, il sait ménager le suspense, masquer la manœuvre, tromper le rival, attendre le moment favorable. Et le moment venu, le cardinal ne fera qu'une bouchée de l'enfant de cœur. Après la déclaration manquée de Conflans-Sainte-Honorine, les mitterrandistes multiplient les appels vers leur chef. Ils laissent dire et prospérer. Avant de finalement se déclarer le 8 novembre. Rocard, comme annoncé, se retire. Son ami Christian Blanc est consterné, son allié Pierre Mauroy soulagé. Il a beaucoup insisté en ce sens. « Il faut arrêter, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. » Rocard s'efface. Mitterrand se souviendra que son opposant du congrès de Metz en avril 1979, Pierre Mauroy, est devenu son allié à l'automne 1980. Dès ce moment-là, François Mitterrand, lors d'un déjeuner avec Pierre Mauroy, lui confie « Vous savez, je pense que nous pourrions former un ticket ensemble. » Il fait du maire de Lille son porte-parole de campagne et en cas de victoire, il en fera son premier ministre. Où l'on voit tout ce qui se joue, plus ou moins implicitement, en campagne présidentielle. Chaban, premier ministre de Pompidou en 1969. Chirac, premier ministre de Giscard en 1974. Mauroy, premier ministre de Mitterrand en 1981. Enfin, s'il gagne, pour la candidature, la voie est libre. Le 24 janvier 1981, à Créteil, un congrès extraordinaire du Parti socialiste l'entérine. Pour l'Élysée, c'est une toute autre affaire. Relevons ici la grande force politique et psychologique de François Mitterrand. Les sondages disent que Rocard seul pourrait menacer Giscard. Il s'en fiche. Les mêmes sondages donnent, à l'automne, Giscard réélu très largement face à Mitterrand, jusqu'à 60%. Il n'en a cure. Il se bat depuis très longtemps. Il veut voir son combat aboutir. Il y croit. Il tient bon. Unité retrouvée chez les socialistes, rupture confirmée avec les communistes. Cherchons-en les raisons. Bien sûr, l'explication internationale soviétique y a sa part. L'Union soviétique souhaite la réélection de Giscard. Elle l'avait soutenu en 1974, elle l'a soutenu en 1978, elle le soutient pour 1981. Chacun note d'ailleurs qu'en janvier 1980, Marchais approuve l'invasion soviétique en Afghanistan, invoquant l'arriération du pays. Le facteur soviétique n'explique cependant pas tout. En 1974, les communistes s'en étaient émancipés. L'explication idéologique y joue un rôle. Les communistes se méfient des socialistes sur tous les plans, les estimant prêts à toutes les concessions. Concessions aux capitalistes en limitant les nationalisations, en exagérant les indemnisations, en contenant les augmentations sociales. Concessions aux États-Unis, vu leur atlantisme congénital. Concessions aux centristes, avec lesquels ils les soupçonnent toujours de vouloir s'allier, et cela alors même que le centrisme autonome n'existe plus. En politique, les fantômes du passé possèdent une étonnante réalité. La cause principale de la rupture réside cependant ailleurs. Le Parti communiste a longtemps pensé que la stratégie d'union de la gauche lui permettrait de se réinsérer dans la vie politique française. Il a eu raison. Le Parti communiste a longtemps cru que la stratégie d'union de la gauche lui permettrait de se renforcer. Il a eu tort. Ou plus exactement, les événements ont semblé lui donner raison avant de lui montrer qu'il se trompait. 1962, première bribe de désistement mutuel entre socialistes et communistes, le PC obtient 41 députés au lieu de 10 sortants. 1967, première alliance véritable entre le PC et la FGDS, le PC progresse avec 22% des suffrages et 73 députés. 1973, première législative après le programme commun, PC 21,3, PS 20,6, l'écart se resserre, le danger se concrétise. 1978, dernière législative avant la présidentielle, PC 21, PS 25. L'inversion s'est produite, le danger est réalisé, rien ne va plus. D'autant que le scrutin majoritaire aggrave l'écart et donne toujours aux socialistes nettement plus de députés qu'aux communistes, dont les fiefs sont plus concentrés autour de leur municipalité. Lorsque l'Union de la gauche servait le PC, pourquoi s'en plaindre ? Lorsqu'elle renforçait les deux alliés, aucune raison de ne pas la prolonger. Mais à partir du moment où elle se traduit par la progression continue des socialistes et la stagnation communiste, la domination du PS sur le PC, alors plus rien ne la justifie, ou plutôt tous les arguments géopolitiques, idéologiques, économiques, sociaux qui la contredisent reprennent valeur et vigueur. Le retournement communiste repose donc sur une solide logique, au moins à court terme. Il paraît néanmoins doublement à courte vue. D'abord, la direction communiste pense que la rupture avec les socialistes pourra empêcher la victoire socialiste. Et si c'était l'inverse ? Ensuite, elle pense ainsi enrayer sa stagnation électorale. Et si, au contraire, elle la remettait en cause, mais dans le mauvais sens, vers le bas ? Le Parti communiste sous-estime alors à quel point l'union de la gauche lui a été favorable, par-delà la compétition électorale avec le PS, à quel point elle lui a redonné une légitimité en des temps où l'Union soviétique affichait un visage chaque jour plus vieilli et plus sinistre. À quel point elle a suscité des espoirs profonds dans le monde du travail. En rompant avec les socialistes, il pense se faire une nouvelle jeunesse alors qu'il accélère sa sénescence. Ainsi s'est constitué, au fil du septennat giscardien, l'étonnant paysage politique de la présidentielle de 1981. Ce qui était uni en 1974 s'est déchiré. Brisé, l'alliance entre le jeune Giscard et le jeune Chirac qui avait produit la fin inattendue du règne des gaullistes. Brisé, l'union si porteuse de la gauche qui avait failli gagner. À l'inverse, ce qui était divisé s'est unifié. Enfin unis les libéraux giscardiens et les centristes sociaux. Enfin unis les socialistes si longtemps éparpillés. En 1965 et en 1969, la majorité était unie derrière son chef gaulliste, les oppositions divisées entre gauche et centrisme. En 1974, la gauche était unie entre socialistes, communistes, radicaux de gauche, PSU et autres, tandis que la droite se divisait entre Chaban et Giscard. En 1980, grande nouveauté, la division règne dans les deux camps. Division à gauche, on vient de le voir et de l'expliquer, entre des communistes qui préfèrent perdre plutôt que de voir Mitterrand élu, et des socialistes qui ont décidé de ne pas leur céder. 12 octobre 1980, la conférence nationale du Parti communiste investit sans attendre Georges Marchais, candidat à la présidentielle. Division extrême à droite entre le RPR déchaîné contre Giscard et le président sortant soutenu par la nouvelle UDF. Et surtout, longtemps, très longtemps par l'opinion, cette traduction sondagière de la volonté des Français qui annonce sa réélection. 22 octobre 1980, Jacques Chirac, il faut changer de président. Le paysage s'est compliqué, les alliances se sont brisées ou ratatinées sur le minimum électoral pour la survie, et les jeux semblent faits, sauf qu'ils ne le sont presque jamais, sauf que les pièces sont en place, mais la vraie campagne n'a pas commencé, elle commence, elle va tout bousculer.
On retrouve Olivier Duhamel demain pour la suite de la série. Et maintenant, un livre que je vous recommande, un livre avec plus d'une trentaine de petites histoires singulières qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. 34 auteurs, metteurs en scène, psychanalystes et universitaires évoquent leur enfance et l'exil ensuite. Leur enfance dans le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Liban et la Turquie des années 30 et 1960. Une enfance juive en Méditerranée musulmane, c'est le titre de ce recueil de textes inédits édité par Bleu Autour et coordonné par Leïla Sebar, mon invitée ce matin. Bonjour Leïla Sebar.
Bonjour.
Vous n'avez pas seulement coordonné ce livre, vous l'avez même initié, je suppose.
Oui, comme je l'ai fait pour un certain nombre de recueils, de récits d'enfance, d'écrivains. Et depuis longtemps, je voulais réunir des écrivains juifs de la Méditerranée. J'y pensais beaucoup. Et puis c'est fait.
Alors, des souvenirs d'enfance, d'un pays perdu, d'un monde disparu. Heureusement qu'il y a des photographies dans ce livre, des photographies qui sont là pour nous rappeler que tous les récits sont vrais, que tous les rescapés de cette odyssée sont encore vivants. Le Caire de Toby Nathan, le Constantine de Jean-Luc Alouche, le Mogador et ensuite la Essaouira d'André Azoulay, la Tunis d'Hubert Haddad, la rue Claude Debussy à Alger de Daniel Mesguich, Daniel Siboni dans la Médina de Marrakech, Guy Sitbon qui revient à Monastir. Dans toutes ces histoires, les Juifs et les musulmans se côtoient, vivent ensemble, en voisinage, en cousinage, mais aussi d'une certaine façon en connivence, voire en complicité.
Oui, en connivence, en complicité, oui, mais aussi dans des situations liées à l'histoire politique, aux crises, aux guerres, et donc dans des rapports parfois conflictuels.
Alors là, il laisse barre pour reprendre le texte de Guy Sitbon. À un certain moment, il dit que juifs et arabes, comme Aragon et les yeux d'Elsa, nous vivions ensemble séparés.
Alors, ensemble séparés, je pense que ça dit bien et ça définit bien la tonalité de ces récits d'enfance. Parce que vous disiez connivence, vous disiez voisinage, oui, proximité aussi, puisque la langue arabe est aussi la langue qui réunit les juifs et les musulmans. Et donc, ensemble séparés, encore une fois, l'histoire à séparer les juifs et les musulmans.
Ali Cherki, donc la psychanalyste d'Alger, la fille d'Alger, disait, en parlant des traditions, que c'était, comme chez les musulmans, à la fois semblable et différent, ce qui est une très bonne définition, mais surtout, elle dit, en s'adressant à vous, parce que très souvent ces textes sont des lettres que ces auteurs vous adressent, Leïla Sebar, elle dit, je l'avoue, ces traditions que j'ai un peu oubliées. Et c'est là où on se rend compte, en lisant toutes ces histoires, que c'est la fin au moins d'un monde, c'est-à-dire celui des juifs arabophones.
Dans les familles, oui. C'est-à-dire que les grands-parents, les parents, étaient des arabophones, et souvent de bons arabophones. Les enfants, c'est-à-dire la dernière génération, la génération de ceux qui écrivent dans ce livre, donc ce sont les dernières générations, il n'y en a plus après. Puisque les pays de la Méditerranée musulmane se sont vidés de leurs juifs, comme disait Jacques Hassoun. Je pense que c'est la fin, effectivement. Et moi, c'est aussi ce qui m'intéresse. C'est en général la fin d'un monde et le passage d'un monde à un autre monde. Et les juifs de la Méditerranée musulmane ne sont plus dans la Méditerranée musulmane. Il en reste très peu, sauf en Turquie où la communauté compte environ 20 000 personnes. Donc cette histoire, cette civilisation, cette culture, ces langues, ce cosmopolitisme, parce qu'il y avait un cosmopolitisme à ce moment-là, tout cela a disparu. Et ma surprise, parce que c'était quand même une surprise, même si je connais la plupart de ces auteurs, ma surprise, ça a été l'élan et l'enthousiasme avec lesquels chacun des auteurs a accepté, d'une part, et puis a fait le travail, parce que c'est un travail. C'est un travail de suivre des consignes qui disent un fragment d'enfance. Les consignes étaient très strictes, puisque 34 auteurs, c'est 10 000 signes par auteur. Bon, ça c'est assez technique. Mais pour un auteur, savoir qu'il a à écrire un récit bref d'une histoire qui est une longue histoire. L'histoire d'une enfance, c'est une longue histoire. Et ça peut faire des pages, des pages et des pages. Hein, des auteurs ont écrit des pages et des pages sur leur enfance. Donc, c'était une sorte de pari, de défi. Et chacun l'a relevé, et moi aussi.
Vous, comment?
Mais moi, en rassemblant ces auteurs qui ne se connaissent pas forcément les uns les autres. Moi, j'ai découvert des auteurs turcs, par exemple, que je ne connaissais pas. J'ai découvert certains auteurs égyptiens. J'ai découvert aussi certains auteurs libanais. Je connaissais les auteurs du Maghreb, parce que c'est mon espace aussi. Mais ça m'a permis de lire, d'entendre d'autres histoires et de voir à quel point il y a des récurrences depuis le Maroc jusqu'à la Turquie, dans ces histoires d'enfance de la Méditerranée musulmane et d'enfance juive, parce que le fait qu'il s'agisse d'enfance juive, c'est important. Les juifs sont présents dans les pays musulmans de la Méditerranée dès avant les musulmans, dans pratiquement tous. Et c'est intéressant de voir combien le partage d'une terre, le partage d'une langue, d'une culture qui n'est pas complètement identique d'un territoire à l'autre, c'est intéressant. Et ces auteurs sont là ensemble, alors qu'ils ne se connaissent pas forcément les uns les autres. Et c'est ce que j'aime. Quand je fais un travail de recueil, de récits inédits, d'auteurs contemporains et vivants, c'est ça que j'aime.
Et vous qui avez travaillé sur votre passé, sur la mémoire, sur vos racines, votre famille et votre déracinement et votre attachement aux origines, vous, Leïla Sebar, qui dites que lorsque vous étiez enfant, dans votre famille, vos parents ne faisaient pas la différence ou ne voulaient pas faire la différence entre musulmans, juifs, chrétiens, qu'ils étaient d'abord des individus. Est-ce que ces histoires particulières vous ont appris des choses sur votre pays d'origine ?
Sur mon pays de naissance qui est l'Algérie, oui, j'ai appris. En tout cas, lorsque j'étais enfant, comme je le dis dans la préface, fille d'instituteurs laïcs de la Troisième République, je n'ai été élevée ni dans la religion de mon père, qui est la religion musulmane, ni dans la religion de ma mère, chrétienne. La religion, c'était la religion laïque et de la laïcité. Donc, je ne savais pas ce que ça signifiait d'être juif, musulman ou chrétien. Et bon, je l'ai appris plus tard, quand même, et par des détours divers. À travers ces textes, j'ai appris, comme je pense, beaucoup de lecteurs apprendront. Et les auteurs de ce recueil m'ont dit avoir eux-mêmes appris sur des enfances turques ou des enfances marocaines ou même ces enfances juives algériennes, parce que l'Algérie est particulière. Avec le décret Crémieux de 1870 qui donne la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie, c'est une histoire particulière, l'Algérie. Et beaucoup d'auteurs qui ne connaissent pas forcément l'histoire de ce pays ont appris aussi.
Une enfance juive en Méditerranée musulmane, c'est le titre de ce livre, de ce recueil de 34 textes. Et de photos d'enfance, oui. D'ailleurs, hein, très, très précieux. C'est édité par Bleu Autour et ça a été recueilli, bien sûr, par vous, Leïla Sebar. Merci d'être venue ce matin.
Merci.
Cette émission, bien sûr, vous pouvez la réécouter ou la télécharger en passant par franceculture.fr et en vous laissant guider jusqu'à la page de l'émission « Un autre jour est possible ». Émission réalisée aujourd'hui par Stéphane Ronxin avec à la technique Olivier Pasquier. Dans un instant, les premières informations du jour. Tout de suite après, Marc Vancher. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Passez une bonne journée avec France Culture.